tu m'étonnes avec le temps qu'il fait.
Vous voulez boire un verre?
Volontiers.
Oh Adrien, tu me sers deux pastis.
C'est très chaud, non?
Pierre transpire de partout.
Tu gourdes?
Et alors, vous voulez pas prendre le pastis?
L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Je pense qu'on peut démarrer l'apéro.
J'ai découvert en septembre 2017 la vraie forme de mon clitoris. Pas ce petit et mystérieux bouton au-dessus de mon sexe, non, le vrai clitoris. Ce monstre gigantesque, tentaculaire, ce kraken dans mon bas-ventre. Moi aussi j'ai un gland, un prépuce, j'ai même des piliers. J'étais contente, fière de porter en moi cet organe de l'orgasme, cette arme de délectation massive. Et puis, j'ai eu honte. J'ai 26 ans, je croyais connaître mon corps. Comment ai-je pu ignorer ça aussi longtemps? Mon clitoris s'est changé en Madeleine de Proust de toutes ces choses que j'ai apprises trop tard, qu'on a toutes apprises trop tard. Que nos tampons peuvent nous tuer, que nos pilules nous rendent cardiaques, que mes règles ne sont pas sales et mes tétons pas obscènes. L'adage dit que le savoir, c'est le pouvoir, mais plus j'en apprends et plus je me sens impuissante. Qu'est-ce que j'ignore encore sur moi-même? Pourquoi ai-je l'impression que mon corps appartient plus aux blouses blanches qui me pénètrent et m'examinent qu'à moi-même? Faut-il 11 années d'études pour savoir ce qui se trame là-dessous? A-t-on oublié d'ouvrir certains livres, d'écouter en cours de bio, de nous informer? Non. Ce savoir, on nous en prive. On a effacé nos clitos des manuels d'anatomie, on a rangé la composition de nos tampax dans le temple du secret industriel, fermé à double tour. Et vous savez pourquoi? Car la suite de l'adage, la voilà. Le savoir, c'est le pouvoir. Mais le savoir représente parfois un pouvoir trop grand. Parfois, même une grande vérité doit être sacrifiée pour le bien de tous. Le bien de qui exactement? Celui des femmes? Vous vous sentez bien, vous, à savoir qu'on vous ment? Allez, troquons ce pseudo bien commun pour un peu d'instruction. Emparons-nous du savoir dont on veut nous priver. La culture, c'est comme le lubrifiant. Moins on en a, plus ça risque de piquer sur la durée.
Nous sommes ensemble pendant une heure sur le 93.9 FM. Et Charlotte, que vous venez d'entendre, et moi-même avons le plaisir de recevoir Margot Collet du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le HCE, c'est comme ça qu'on l'appellera, sinon c'est trop long et trop compliqué. Elle est la co-rapporteure du rapport intitulé « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical » publié le 29 juin dernier et dont on va parler pendant cette heure ensemble. Rada Atem, gynécologue auditionnée pour le rapport et la fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis, elle nous rejoindra en cours d'émission. Et comme une bonne initiative n'arrive jamais seule, nous recevrons par téléphone en milieu d'émission la réalisatrice Nina Faure, qui vient de mettre en ligne son documentaire « Paye pas ton gynéco », un documentaire qui questionne les violences gynécologiques et tente d'en discuter avec des médecins pas vraiment réceptifs à ses revendications. C'est l'été et nos cerveaux surchauffent, surtout quand on parle de violences faites aux femmes. Alors pour se décontracter les neurones, on vous a concocté une petite série de chroniques. Les Françaises parleront aux Français 4 fois entre 19h et 20h aujourd'hui. Et aux surprises, les Françaises sont passablement énervées. On parlera de vagin, de sandales, de sourires et de règles. Et on reste dans la veine campus, puisque Maxime Facciotti clôturera l'émission avec sa fiction estivale. On ne sait pas s'il sera question d'utérus et de gynéco pendant cette fiction, mais en tout cas, c'est ce dont nous, on va parler pendant une heure. Et comme on a du pain sur la planche, on commence tout de suite.
À 7 mois, j'ai été hospitalisée en grossesse à risque à Marseille. J'ai trouvé ça assez inhumain. On m'a césarisée à 34 semaines et où le gynéco me fait une péridurale pas suffisamment forte. Donc je lui dis que je sens tout ce qu'il fait en moi, que je sens ses mains dans mon ventre. Par panique, je lui dis « Arrêtez tout, docteur, arrêtez tout, c'est horrible, je vous sens dans mon ventre, c'est affreux. » Il me dit « Si j'arrête tout, là, je vous laisse avec les intestins sur les genoux. » Et ensuite, il me dit « Puis arrêtez de vous énerver, là, parce qu'il y a la tension qui monte, c'est pas bon. » Bon, écoutez, là, on est vendredi soir. Moi, j'ai un avion à prendre. Je pars en week-end, donc ce serait bien que ça aille un peu plus vite. Calmez-vous, parce que vous nous aidez pas.
Ce qu'on vient d'entendre là, c'est un extrait du podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée diffusé sur Arte Radio. Un épisode intitulé « Le gynécologue et la sorcière » dans lequel des femmes victimes de violences gynécologiques et obstétricales ont témoigné. Et ces femmes ne sont pas des victimes isolées comme en témoigne le rapport du HCE, donc on a dit qu'on l'appelait comme ça, commandé en juillet 2017 par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport vient d'être publié. Margot Collet, vous en êtes la co-rapporteure. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable des études de la communication et des relations presse au HCE. Pour commencer, ce témoignage qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il vous étonne?
On en a entendu d'autres comme ça. Effectivement, le podcast à soi d'Arte Radio est assez complet, il me semble, sur le panel de ce que sont les actes sexistes durant le suivi gynécologique obstétrical. On voit que, enfin, nous, ce qu'on a pu observer, on est parti des témoignages de femmes, c'est des choses effectivement qui vont de comportements, de propos porteurs de jugement, on pourra revenir dessus, jusqu'à des anesthésies défaillantes, jusqu'à des épisiotomies sans consentement. Donc on voit que le prisme est assez large et la question des anesthésies défaillantes est revenue de manière très régulière par des sages-femmes qui avaient observé ça, par des femmes qui l'avaient vécu et qui jusqu'à présent étaient complètement niées, complètement passées sous silence. Des femmes qui n'avaient jamais été reconnues et entendues dans ce qu'elles avaient vécu et on leur disait c'est dans votre tête, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis elles répétaient qu'effectivement elles avaient senti ça, elles avaient senti la lame, elles avaient tout senti et que l'anesthésie n'avait pas marché. Et il y a des sages-femmes qui nous ont confirmé qu'effectivement des péridurales ne peuvent ne pas mettre le même temps sur des patientes différentes, qu'on peut développer une tolérance aux produits qui fait que ça ne marche pas et que comme on n'écoute pas la parole des femmes, on va plutôt nier leur parole plutôt que d'essayer de résoudre le problème sur le moment.
Ce témoignage, il est assez représentatif de la non-écoute de la douleur des patientes, qui est un élément qui revient souvent dans votre rapport. C'est un mauvais traitement qu'on pourrait placer entre l'infantilisation de la femme et aussi de la torture, même si c'est un mot fort, mais quand on entend ce témoignage, ce n'est pas si fort que ça. Est-ce que c'est un élément qu'on retrouve dans d'autres domaines médicaux? Est-ce que vous savez si cette non-écoute de la douleur, ça se retrouve dans d'autres domaines?
J'ai vu récemment, pendant qu'on était sur la rédaction du rapport, le témoignage d'un homme qui avait une opération de la carotide ou quelque chose comme ça, et qui avait dit avoir ressenti la même chose, que l'anesthésie n'avait pas marché, qu'il avait hurlé et que les médecins s'étaient arrêtés. Sauf que ça a fait l'objet d'un article dans la presse, qu'il a porté plainte et qu'on en a beaucoup entendu parler. Peut-être que pour les femmes, il y a quelque chose de spécifique, c'est que on nous répète à longueur de temps que l'accouchement se fait dans la douleur, que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, et les femmes sont habituées à encaisser, à ne pas en parler, et on voit également qu'on a l'habitude de ne pas les écouter. Donc peut-être que sur la prise en compte de la douleur, l'écoute de la parole des femmes, il y a quelque chose de spécifique qui ne se retrouve pas dans d'autres spécialités. On peut retrouver des cas comme ça exceptionnels d'anesthésie défaillante, mais ça fait scandale.
Ouais, effectivement, la douleur dans les rapports gynécologiques ou obstétricaux, c'est quelque chose qui est assez ancré dans notre culture. Il y a une autre raison pour laquelle, a priori, ces violences sont restées longtemps invisibles, c'est parce qu'en tant que femme, pour parler contre les abus, il faut aller contre la parole aussi des médecins, c'est-à-dire des personnes compétentes qui font figure d'autorité. Il y a beaucoup de femmes sur le site Payton Gynéco qui recensent de nombreux témoignages qui écrivent « Jusqu'à ce moment-là, j'ai rien dit, car je me disais qu'il faisait juste son travail, en fait. » Est-ce que dans le cas des violences gynécologiques, on peut parler d'abus de pouvoir de la part des médecins?
Je pense que la question du pouvoir médical et du fait qu'on n'écoute pas les patients et les médecins, enfin, qu'on ne considère pas qu'ils sont d'égal à égal et que le patient doit être écouté, doit contribuer au diagnostic, se retrouve partout. La différence, et ce qui exacerbe en matière gynécologique et obstétricale, c'est que les femmes ont le sentiment qu'elles n'ont pas voix au chapitre, qu'elles ne sont pas actrices de leur suivi gynécologique, de leur accouchement. Une sage-femme nous disait en audition, quand je demande aux femmes de quoi elles ont envie, elles restent bouche bée parce qu'on ne leur pose jamais la question. Je pense que cette question du pouvoir médical et de considérer que justement le médecin sait mieux que quiconque, elle est vraie partout, mais qu'elle est encore plus forte en matière de gynécologie et d'obstétrique. Ça, c'est lié aussi à l'histoire de la gynécologie et de l'obstétrique, où en fait, à partir du XVIe siècle, la médecine est passée, enfin en tout cas le fait d'accoucher est passé des matrones, des sages-femmes, entre les pouvoirs des médecins, et les médecins avaient tout pouvoir, la maîtrise des instruments, et les femmes n'avaient aucun mot à dire, et elles étaient en aucun cas actrices de ce qui se passait.
C'est l'exemple qu'on avait, c'est l'exemple le plus prégnant dont on a parlé récemment avec le docteur Sims, qui est l'inventeur du spéculum, et dont on a déboulonné la statue à New York récemment, qui en fait a testé les différents outils qu'il a inventés sur des esclaves noirs, évidemment sans aucun consentement et sous forme de torture.
Effectivement, on cite l'histoire du docteur Sims et un peu la relecture de l'histoire qu'on a aujourd'hui. On fait une illustration de ce qu'a été l'histoire de la gynécologie et de l'obstétrique, qui est traversée par la volonté de contrôler le corps des femmes, notamment leur sexualité et leur reproduction, et de ne pas les considérer en tant qu'êtres humains ayant un esprit et une parole, mais plutôt en tant que corps à disposition de la médecine, c'est moins le cas aujourd'hui, mais en tout cas le docteur Sims en est une illustration. Il est considéré encore aujourd'hui comme le père de la gynécologie et il a pratiqué des expériences sur des femmes esclaves dans un premier temps sans anesthésie et en toute impunité. Il est encore considéré comme le père de la gynécologie.
Un des éléments que le rapport du HE met en lumière, c'est ça, c'est cette absence de consentement, le fait même qu'on ne demande pas aux femmes l'autorisation pour pratiquer des actes médicaux sur elles. En gros, pour donner un exemple aux auditeurs, aux auditrices, pendant un accouchement, on vous fait une épisiotomie sans vous demander, sans vous expliquer, et à une échelle un peu moindre, on va dire, quand on vous fait un toucher vaginal chez le gynéco, sans vous demander ni vous prévenir. Au-delà de toute considération féministe, éthiquement parlant, et par rapport à la déontologie médicale, ça représente quoi ces actes pour les médecins qui les pratiquent ?
C'est une infraction au Code de la santé publique. Depuis 2002 et la loi qu'on a appelée la loi Kouchner, tout acte médical ne peut être pratiqué sans retenir le consentement libre et éclairé du patient. Et si le patient ou la patiente n'est pas en état de donner son consentement, la personne proche de la patiente doit le donner. Donc ça veut dire qu'aucun acte, que ce soit une épisiotomie, un toucher vaginal, ne peut être pratiqué sur une patiente en sachant que pour donner son consentement, il faut qu'elle ait le consentement éclairé, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait eu toutes les informations qui l'informent des risques, de ce en quoi consiste l'acte avant de donner son consentement ou non.
De la même manière, comment on peut expliquer, il y a des écarts énormes en fait entre les maternités, entre les hôpitaux sur le nombre d'épisiotomies qui sont pratiquées. Dans le rapport, le HCE se rapporte à une autre étude du Monde sur l'épisiotomie qui constatait que ça allait de 0,3% d'épisiotomie dans une maternité de Besançon à 45% à Limoges. Comment on explique ça ?
Déjà, c'est des données assez peu transparentes. Il y a des enquêtes de statistiques publiques qui existent, mais qui comparent entre régions et pas entre établissements. Ce qu'a fait le Monde apporte vraiment quelque chose de nouveau, à la fois pour les femmes, pour qu'elles puissent comparer les maternités les plus proches de chez elles, et puis aussi pour les professionnels de chaque maternité qui puissent se comparer et qui puissent faire évoluer leurs pratiques. Effectivement, on observe des taux, des écarts énormes entre des maternités, et ces écarts ne s'expliquent pas par les populations qui sont accueillies. Parce qu'en fait, en France, les maternités, on va du type 1 à type 3. Type 1, c'est les grossesses sans risque, qui ne présentent pas de risque a priori. Type 3, c'est les grossesses pathologiques, les grossesses à risque, dont on sait qu'elles peuvent entraîner des césariennes, des épisiotomies, plus souvent que les autres grossesses. Or, ce que montre la cartographie du Monde, c'est exactement l'inverse. C'est que la maternité qui est à 0,3% d'épisiotomie, c'est une maternité à haut risque pathologique, alors que la clinique qui pratique 45% d'épisiotomie, et ça va même jusqu'à 60% sur la première grossesse, c'est une clinique qui accueille des grossesses à bas risque. Donc on voit bien que là, on n'est plus, en tout cas à un niveau global, on ne va pas regarder cas par cas, mais en tout cas avec ces écarts-là, on n'est plus dans une nécessité pour le fœtus ou pour la mère, on est vraiment dans une question des pratiques professionnelles et d'un usage quasi systématique dans certaines maternités, en tout cas pour les premières grossesses, de l'épisiotomie.
C'est ça, de réflexes qui ne sont pas du tout questionnés, qui ne sont pas du tout remis en question au fil du temps. Mais c'est déjà l'heure de notre première allocution radiophonique. Ce sont souvent des hommes, des ministres, des présidents qui s'adressent aux Français et aux Françaises. Mais aujourd'hui, dans l'apéro, ce sont les Françaises qui parlent aux Français.
Les Françaises parlent au français.
Vous l'avez déjà vécu vous aussi ce moment, une belle soirée d'été. Vous marchez dans la rue, la vie est belle, votre cœur léger, tout va bien. Quand soudain, l'indescriptible se produit, la lie de l'humanité dans son costume d'homme banal se tourne vers vous et vous dit « Eh mademoiselle, si vous souriez, vous seriez encore plus jolie. Faut sourire, hein, faut pas faire la gueule mademoiselle. » Tout allait bien, français. Mais là, on va y répondre une bonne fois pour toutes à ton infâme demande de sourire à tous les coins de rue. Si tu veux quelqu'un qui sourit, tu vas au Crédit Agricole, puisque tu es un bœuf, et tu t'achètes une poupée gonflable. Tu sais pourquoi les Françaises ne prennent même pas la peine de te répondre, c'est parce qu'on n'a rien à te répondre. En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on me demande de sourire. À la limite, si on était mariés, que j'étais enceinte de 8 mois et que j'avais pas décoché un sourire depuis plusieurs semaines, je comprends qu'il y a interrogation. Mais là, en fait, on se connaît juste pas. Parce qu'un mec qui a un visage fermé, c'est un mec déterminé, qui affronte son quotidien, les sourcils froncés, personne lui demande rien. Une fille qui ose détendre ses zygomatiques, c'est une frustrée qui fait la gueule. Il faut la remettre en place et qu'elle nous gratifie d'un sourire, qu'elle nous montre à quel point elle est reconnaissante de vivre dans cette société où elle a le droit d'ouvrir un compte en banque, de porter des pantalons, de travailler. Comme toi, petit français, qui m'a demandé de sourire la dernière fois. Pourquoi tu me parles alors que je suis tranquille en train de lire un livre ? Tu sais, je sais sourire, mais je n'ai pas envie de sourire tout le temps. Je n'ai pas envie de sourire pour toi. J'ai encore moins envie de sourire si tu me le demandes. Un peu comme ces ces amis gênants qui te crispent en souriant en te disant « Allez, danse, allez, bouge !» On n'est pas des vendeuses de yaourt, on n'est pas des chauffeuses de salle, on n'est pas des VRP de la gente masculine. Demander à quelqu'un de sourire, c'est comme demander à quelqu'un de pleurer, sur commande, dans le métro. C'est absurde, quelqu'un que tu connais pas, tu demandes pas ça. C'est comme le collègue de la radio qui me dit, c'est un collègue, c'est un ami qui me dit, mais t'es juste tellement plus jolie quand tu souris, je te jure, fais ça, tu verras, tous les mecs viendront te parler dans le métro. Alors déjà, si tu crois que ce que j'ai envie dans le métro, c'est que tout le monde vienne me parler, non, c'est pas la peine qu'on discute. Pourquoi je voulais parler de cette injonction à sourire aujourd'hui, c'est parce que la demande de sourire, ça vient de ta famille, de tes collègues, des inconnus dans les rues. Chacun est en droit de te demander de te comporter comme il le veut. Et ils osent tous te dire ça, comme s'ils te donnaient un vrai conseil d'ami, un conseil de mec qui s'y connaît. Mais en fait, c'est quoi le problème? Je viens te voir, toi, quand tu pues du bec après ton café clope, non. Mais ça aussi, ça m'indispose. Mais j'ai pas l'irrespect de te demander de changer pour mon bien-être visuel. Le pire du pire, ce sont les mecs qui prennent même pas la peine d'articuler un mot, qui croisent ton regard et qui te font signe avec les mains de remonter tes lèvres. Allez tous vous faire foutre, je suis pas plus jolie quand je souris. J'ai pas envie d'être plus jolie quand je souris. J'ai pas envie que vous me trouviez jolie. J'ai pas envie de réfléchir à comment être plus jolie pour vous. J'ai simplement envie qu'on me laisse. C'est mon appel du 3 juillet. Lâchez-nous le slip. Voilà. C'est
merci
tout.
Nina, ça fait du bien. Hein,
bah oui, un peu sur une petite musique lounge, j'étais bien, tranquille.
Margot Collet, est-ce que dans les témoignages que vous avez reçus, il y a des femmes à qui on a intimé de sourire avant ou après l'accouchement? Ou est-ce que c'est quand même un endroit où on a le droit de faire la gueule et de hurler?
Non, après l'accouchement, on a censé avoir vécu le plus beau jour de sa vie, enfin après le mariage du coup, mais après le mariage, c'est l'accouchement, et justement, les femmes, certaines femmes se retrouvent complètement en décalage avec ces injonctions de la maternité heureuse, du fait qu'il n'y a que l'enfant qui compte et qu'il va bien, donc tout va bien. Il y a des femmes qui disent ça, on m'a dit le bébé va bien, donc tout va bien, ne vous posez pas trop de questions. Et du coup, elle se retrouve dans un questionnement où non, tout va pas bien, où elles ont le sentiment d'avoir vécu quelque chose qui n'était pas normal, que c'était pas du tout le plus beau jour de leur vie, voire parfois un très mauvais
le
moment.
Pire.
Et du coup, c'est très compliqué d'en parler au père de l'enfant, à sa famille, quand tout ce qui compte maintenant, c'est que le bébé soit là, qu'il faille s'en occuper 24 heures sur 24, et ne pas trop parler de bistouri, de péridurale et de toutes ces choses dont on parle assez rarement. Et là aussi, on a une injonction à sourire.
Si j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Suzanne Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi, aussi j'avais des couilles, j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout, j'aimerais pouvoir pisser debout. Être un homme, c'est beaucoup plus économique. À 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques, et les capotes sont distribuées gratos dans la rue, alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau, alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille pour refaire sa vie avec une jeune bimbo. C'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. Ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout. Plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de col enfilé, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginales. comme Mylène Farmer, j'ai posé cette question. J'ai dit, dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça. Vulgaire comme un mec, bête comme une fille, je suis les deux à la fois. Ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Moi si j'étais un homme, je serais pas capitaine d'un bateau, non. J'allais plutôt me taper des buts à porte-maillot. Je remplacerais la salade sans sauce par une choucroute saucisse. J'aurais plus l'obsession de la taille 36. Je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter en meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un don Juan. Oh si j'étais un homme, si seulement. Ouh, si seulement je pouvais pisser debout. Pisser debout. Ouh, j'aimerais tellement pisser debout. Pisser debout.
C'était la chanson Pisser debout de Jiedré sur Radio Campus Paris. C'est une chanson qui parle des choses qu'on aimerait faire si on était un garçon. Et moi, ce que j'aimerais faire, moi, ce que j'aimerais qu'on me fasse, tout en restant une femme, c'est qu'on me prévienne quand on introduit un spéculum bien froid dans mon vagin.
Tu prendrais pas une bière ?
On vient de passer un mois à picoler, on a fait que ça.
Et on va continuer.
Et on va continuer.
L'apéro jusqu'à 20h sur le 93.9.
On est toujours en studio avec Margot Collet, qui est la co-rapporteure du rapport du HCE sur les violences gynécologiques et obstétricales. Et avant qu'on continue à parler d'un thème un tout petit peu différent, le rapport fait 160 pages, donc il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que ça recouvre le terme exactement, violences gynécologiques et obstétricales ?
Comme vous l'avez dit, nous on a préféré choisir l'expression de acte sexiste durant le suivi gynécologique et obstétrical. Pourquoi ce choix ? Il ne s'agit pas du tout d'euphémiser, de ne pas parler de violence gynécologique et obstétricale. C'est simplement qu'en fait, nous, on est parti des témoignages. On est parti de centaines de témoignages compilés autour du hashtag Paye ton utérus, des podcasts qui existent, comme celui mentionné de Arte Radio, du livre noir de la gynécologie. Et en fait, on s'est rendu compte que tout n'est pas violence. Et ce que dénoncent les femmes, il y a des violences, mais il y a aussi d'autres choses qui relèvent plus de la pratique, d'une culture médicale et qui ne sont pas des violences. Donc du coup, on a voulu montrer que tout ça, tous ces actes sont très différents, mais qu'ils ont tous pour point commun d'être sexistes. Donc qu'est-ce qui ne sont pas des violences? En tout cas, qu'est-ce que nous, on a considéré qui n'étaient pas des violences? C'est par exemple le fait de devoir se déshabiller de manière quasiment systématique dans une consultation gynécologique. Ça, c'est ne pas prendre en compte la spécificité, le caractère intime d'une consultation gynécologique qui n'est pas comme une consultation chez le dentiste. On n'est pas obligé de se déshabiller systématiquement et d'ailleurs il y a des médecins qui proposent aux femmes d'enlever le haut pour une palpation mammaire, de remettre le haut, puis le bas pour un examen vaginal. Ça prend peut-être 30 secondes, une minute de plus, mais en tout cas ça permet aux femmes de se sentir plus à l'aise, on leur propose, et de ne pas être systématiquement entièrement nues sur une table de consultation, les jambes écartées pour un examen vaginal. Donc ça par exemple, on considère que on a six types d'actes recensés, ça c'est la non prise en compte de la gêne. Après il y a des propos porteurs de jugement, mais qui là aussi ne sont pas des violences, c'est pas des injures, des insultes, etc. C'est plutôt des injonctions sexistes du type vous êtes lesbienne, donc vous n'avez pas une vraie sexualité, vous êtes lesbienne, donc vous n'avez pas vraiment besoin d'aller voir un gynéco. Ça non plus, c'est pas une violence, mais ça a un impact très concret, très direct sur les femmes, notamment lesbiennes, qui vont aller voir moins régulièrement un gynécologue parce qu'on leur a dit que si elles n'avaient pas de relations hétérosexuelles, elles n'avaient pas une vraie sexualité, elles n'avaient pas besoin de voir un gynécologue régulièrement, sous-entendu parce qu'elles ne prennent pas de moyens de contraception. Il y a aussi des comportements porteurs de jugement sur le fait de vouloir un enfant ou pas, de culpabiliser une femme en lui disant « mais vous êtes sûre que vous ne voulez pas le garder, vous avez 30 ans, l'occasion se représentera peut-être pas plus tard, réfléchissez-y à deux fois ». Qui peuvent aller jusqu'à, par exemple, faire écouter le cœur du fœtus à une femme qui fait une échographie pour un avortement. Ça s'appelle un délit d'entrave à l'IVG. C'est un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende. Et les femmes le savent peu. On n'a pas le droit de tenter de dissuader une femme d'avorter ou de la culpabiliser parce qu'elle veut le faire. Un médecin a le droit de refuser de pratiquer un avortement, mais il doit immédiatement le dire à la femme et l'orienter vers un confrère tout de suite. Donc nous, on a voulu englober tout ça parce que les femmes en parlent dans leurs témoignages, mais ça n'est pas une violence comme par exemple la pratique d'une épisiotomie contre le consentement d'une femme ou une anesthésie défaillante, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, pendant une césarienne sans écouter la femme, ou encore certains témoignages relèvent clairement de violences sexuelles quand une femme raconte que son gynéco lui pose des questions intrusives sur sa sexualité, lui fait des allusions graveleuses et insistantes pendant toute la consultation. Ça, c'est du harcèlement sexuel, donc ça n'a plus rien à voir avec une consultation médicale. Et il y a aussi des faits d'agression sexuelle. Par exemple, on cite une femme dans le rapport qui dit « Il me demande de faire une palpation mammaire pour être sûr que tout va bien. Il m'a palpé les seins pendant 20 minutes. » Là, on est très concrètement dans une agression sexuelle. On n'est plus dans la mauvaise pratique gynécologique, on est dans une violence sexuelle.
Alors justement, tout à l'heure, vous parliez des violences envers les femmes lesbiennes qui vont subir plus de jugements et tout simplement d'homophobie de la part des médecins. On vous propose d'écouter, avant de commencer la deuxième partie de l'émission, un extrait de l'émission LGBT de Radio Campus Paris, Le Placard, qui parlait en début d'année justement des personnes LGBT et de leur santé sexuelle.
Parce qu'il y a des représentations également chez les médecins de ce qu'est la sexualité entre femmes, et que ça peut gêner notamment l'accès au frottis.
Tout à fait. Par exemple, ou simplement à l'examen.
À l'examen, tout à fait. C'est-à-dire que pour certains gynécologues, le frottis ne se fait que lorsqu'il y a pénétration, et elles partent du principe qu'entre femmes, il n'y a pas de pénétration, donc pas de risque. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes qui étaient obligées presque de supplier pour avoir un frottis. Ça met dans une situation un petit peu... La question des cancers du col de l'utérus, par exemple, dans les populations FSF, elle est importante. Et ce n'est pas parce qu'intrinsèquement, les FSF sont plus à même de développer des cancers, mais parce qu'elles ne vont pas suffisamment chez le gynécologue.
Donc un extrait de l'émission Le Placard, la superbe émission LGBT de Radio Campus Paris qu'on vous conseille tous d'écouter. Donc en fait, certaines populations sont plus touchées que d'autres par ces violences, ces actes sexistes pendant le suivi gynécologique et obstétrical. Parmi ces populations, il y a les lesbiennes, mais il y en a aussi beaucoup d'autres que vous décrivez dans le rapport. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu cette partie du rapport ?
À plusieurs reprises, on nous a mentionné les femmes en situation de handicap. D'abord parce que, pour plusieurs raisons, déjà, peu de cabinets de gynécologie sont adaptés pour des examens gynécologiques de femmes en situation de handicap physique, en tout cas. Qu'il y a souvent l'idée que les personnes en situation de handicap, que ce soit physique ou mentale, n'ont pas vraiment de sexualité, n'ont pas vraiment de désir d'enfant et une vie sexuelle et sociale comme les personnes valides. Donc ça, c'est revenu à plusieurs reprises parce que ces femmes-là sont particulièrement vulnérables et donc particulièrement exposées face à ce type de maltraitance. Il y a la question des femmes en situation de précarité qui ont déjà un rapport très compliqué aux soins, qui vont beaucoup moins souvent chez le médecin, qui peuvent subir des remarques jugeantes, maltraitantes, plus que les autres. On l'avait observé dans un autre rapport du Haut Conseil spécifique sur la santé des femmes en situation de précarité. Et là, ça a été confirmé sur ce rapport-là. Des associations qui accompagnent des femmes dans la rue, en situation de migration, dans des bidonvilles, mentionnent que souvent, ces femmes-là n'ont pas le choix de leur contraception, que les médecins qu'elles vont rencontrer vont leur suggérer, voire leur imposer un implant, par exemple, en jugeant qu'elles ne sont pas capables de prendre un autre type de contraception. Donc voilà, les femmes en situation de précarité, les femmes primo-arrivantes qui ne parlent pas correctement français. Donc là, dans ces cas-là, on va encore moins souvent leur expliquer les gestes qui sont pratiqués et recueillir leur consentement, et les femmes en situation de handicap et les femmes lesbiennes.
Le rapport mentionne aussi les femmes en situation de surpoids.
Oui, C'est pas, en toute honnêteté, c'est pas une question suffisamment creusée selon moi, mais il y a eu des. D'ailleurs, un des témoignages sur la couverture, c'est de
Daria Marx.
Ouais. Qui dit si je vous fais de mal, c'est de votre faute, vous êtes trop grosse. La question du physique et du poids, c'est une question qui revient régulièrement, pas forcément dans d'autres types de consultations, mais on sait les injonctions qui pèsent sur les femmes et leur surpoids. Et en tout cas, des femmes mentionnent régulièrement qu'on leur dise, qu'on leur fasse des remarques sur leur poids, alors que ça n'a pas de lien direct avec l'objet de la consultation médicale. Mais sur les violences qu'elles subissent spécifiquement, là, je plaide coupable. C'est pas du tout assez développé dans le contenu du rapport.
Je vous encourage à aller voir du coup le blog de Daria Marx qui s'appelle Gras politique, qui recense pour le coup des témoignages. L'acte le plus représentatif dans toutes ces discriminations et pour toutes ces catégories de femmes qu'on vient de citer, c'est le refus de soins. Ça va être justement le refus de pratiquer une IVG, le refus de poser un stérilet à une femme nullipare. C'est quoi l'ampleur de ce phénomène aujourd'hui en France et quelle population il va toucher en priorité justement ?
Alors l'ampleur du phénomène, c'est une très bonne question. On n'a aucun moyen de le savoir. Par exemple, sur le refus de pose d'un dispositif intra-utérin, ce qu'on appelle communément stérilet, mais qui en fait ne rend pas stérile, à une femme qui n'a jamais eu d'enfant, ça vient de témoignages et ça vient de sondages qui sont faits auprès des médecins et auprès des femmes en leur disant « Pensez-vous qu'on peut poser un stérilet à une femme qui n'a jamais eu d'enfant ?» Mais aujourd'hui, en France, il n'y a aucune enquête de santé publique sur le suivi gynécologique. On a quelques éléments sur ce qui est comment se passe l'accouchement, etc. Mais nous, c'est pour ça qu'on recommande justement une étude spécifique sur la gynécologie pour qu'on sache très précisément à quel âge une jeune femme va voir pour la première fois un gynéco, à quel âge on lui a pratiqué son premier frottis, ça, alors que les recommandations préconisent à partir de 25 ans, mais on sait que c'est fait avant sans raison médicale. Est-ce qu'elles sont satisfaites des informations qu'elles ont reçues sur les méthodes de contraception? Quelles méthodes de contraception on leur a présentées? Voilà, qui mesure à la fois la régularité des consultations chez les gynécologues, enfin consultations gynécologiques, puisqu'il n'y a pas que les gynécologues qui en font, et puis leur impression d'avoir été suffisamment informées et d'avoir toutes les clés en main pour leur bon suivi gynécologique.
Donc ça, c'est une enquête qu'on espère qu'il va arriver un jour. En tout cas, on appelle les autorités publiques à s'en occuper, mais j'entends déjà les clairons qui sonnent et nous annonce la deuxième allocution des Françaises aux Français.
Les Françaises parlent au français.
Ce soir, j'avais envie de m'adresser à mes amis. Mes potes, mes copains, mes gars, sûr de sûr. Je vous adore les mecs, qu'est-ce qu'on se marre ensemble. Ensemble, on peut tout aborder, tous les sujets, tout faire. On pète, on rote, on parle de sueur et de caca, on fait des blagues sur les jacques faciales et la sodomie, et c'est beau. Dans l'humour, entre nous, il n'y a pas de censure. Le mot d'ordre, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus gras. The sky is the limit. Qu'est-ce qu'on rigole, mais qu'est-ce qu'on rigole. Vous êtes si beauf et j'adore ça. Il y a bien qu'avec vous que je me sens complètement moi-même. Que ma beaufrie n'exclut pas ma féminité, que je peux rôter sans discrétion en sachant que vous ne serez pas dégoûté. C'est rare, vous savez. Il y en a beaucoup qui considèrent qu'une femme doit forcément rester classe, féminine, douce et propre. Vous êtes mes petites licornes, mon havre de paix dans ce monde de clichés. Pourtant, il y a un truc dont j'arrive pas à parler avec vous. Un sujet que je peux pas aborder. En fait, le sky n'est pas du tout the limit. Il y a ce tabou au-dessus. Intouchable, inatteignable. Mes règles, mes menstrues, mes ragnagnas. Sérieux, mais c'est quoi le problème? Vous arrivez à détailler votre dernière diarrhée en plein milieu d'un repas, mais que j'ose évoquer mes pertes de sang mensuelles et vous redevenez immédiatement des petits bateaux fragiles. Pourquoi? Pourquoi? C'est beau des règles, c'est naturel. Vous êtes conscient de la beauté du phénomène un peu? C'est mon utérus qui se reconstruit tous les mois et se prépare éventuellement à accueillir la vie. Est-ce que vous pouvez en dire autant de vos flatulences? Pourquoi autant de gêne? Pourquoi autant de timidité? Votre mère les a eues, pour vous avoir, moi je les ai, votre copine les a, enfin j'espère, sinon il y a une pharmacie juste au coin de la rue. Pourquoi vous devenez tout pâle quand on en parle? Pourquoi, sérieusement? Quand je vous dis que je vais changer de serviette hygiénique, j'ai l'impression, face à vous, de vous avoir annoncé le début de la Troisième Guerre mondiale. Sérieusement, il faut se détendre les copains. C'est pas la lèpre, et vous choperez pas le tétanos en vous asseyant à côté de moi. Puisque vous blaguez constamment sur votre bite et votre sperme, à un moment, il va falloir accepter que nous aussi, on détaille de temps en temps ce qui se passe dans notre culotte. Faire l'inverse, ça nous fait juste nous sentir super dégueu. Et croyez-moi, quand on a nos règles, on n'a vraiment pas besoin de ça.
Margot, une réaction, vous parliez tout à l'heure de l'après-accouchement où les femmes n'avaient pas le droit de parler. Enfin, on écoutait peu les femmes qui parlaient d'aiguilles, de bistouri, de péridurale. Ça vous évoque des choses ?
La question des règles.
Ouais.
Oui, bah, y a clairement un gros tabou sur la sexualité des femmes, le plaisir des femmes, leur corps, comment fonctionne leur corps, les organes génitaux des femmes. Les femmes méconnaissent complètement leur anatomie, comment fonctionnent les règles. Elles ne sont pas du tout informées sur ces questions-là. Du coup, sur la question des violences gynécologiques, on voit qu'on touche à un sujet beaucoup plus large de l'éducation à la sexualité, comment on parle de sexualité, du corps, du fonctionnement du corps des femmes de manière beaucoup plus large, donc qu'on en parle dans la société sans que ce soit tabou, et puis surtout que les femmes en parlent entre elles et qu'elles soient informées sur ces questions-là.
Et qu'elles en parlent aux hommes.
Ah oui, enfin qu'on en parle, que tout le monde en parle.
Left that nigga on red, cause I felt like it. Dressed me down in that red and Leroy jacket. Dapper, I look fine and my checks defined. No wonder why I do whatever I like. I do what I like, I do. What I like, I do. It's a gift from God. I think you broke hoes, need to get a job. Now I'm a boss, I write my own name on the checks. Pussy so good, I said my own name during sex. I might smack a bitch cause I felt like it. Gucci shoes and a belt like it. Said the Cardi is his favorite fragrance. I'm a rich bitch and I smell like it. I'm in a boss bitch mood. These heels are Givenchy, ho, these are some boss bitch shoes. If you ain't no boss bitch mood. For the record, I said record sales. I like niggas that been in and out of jail. They say by now that I'll be finished, hard to tell.
I can tell.
My little 15 minutes lasting long as hell.
I left that nigga on red cause I felt like it. Dressed me down in that red and Leroy jacket. Dapper, I look fine and my checks defined. No wonder why I do whatever I like. I do. I do. What I like, I do. I do. What I like, I do. I do. What I like, I do.
Look, broke hoes do what they can't. Good girls do what they told. Bad bitches do what they want. That's what bitches so cold. I'm a gangster in a dress. I'm a bully in the bed. Only time that I'm a ladies when I ladies host to rest. The coupe is ruthless, but I get top in it. I'm provocative, it's my prerogative. 80K just to know what time is it. Cardi rockin' it, go by stockin' it. Spend what I want, ain't no limit. I say what I want, I ain't never been timid. Only real shit comes out my mouth and only real niggas go win it. Leave his text on red, leave his balls on blue. Put it on airplay mode, so none of those calls come through. Here's a word to my ladies, don't you give these niggas none.
Give them none.
If they can make you richer, they can make you come.
I left a nigga on red cause I felt like it. Dressed me down in that red and Leroy jacket. Dapper, I look fine and my checks defined. No wonder why I do whatever I like. I do what I like, I do.
Encore et toujours en studio avec notre invitée Margot Collet pour parler des violences gynécologiques et obstétricales, j'ai réussi à le dire. Il faut qu'on parle d'autre chose parce que le 27 juin, le documentaire « Paye pas ton gynéco » de Nina Faure est sorti, soit 2 jours avant le rapport. Il complète parfaitement le rapport du HCE parce qu'il met en avant des témoignages de patientes, mais aussi de soignants et de représentants de la profession, ce qui est assez édifiant. On retrouve les récits aussi hallucinants des deux côtés, de ceux qu'on avait déjà évoqués, de femmes qui ont subi des violences, du sexisme, de la part des gynécologues et des différents médecins. Et il met donc en opposition ces témoignages-là avec le silence ou le déni des médecins et des représentants de la profession. On a justement Nina Faure qui est au bout du fil avec nous en studio. Bonjour Nina, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire, vous nous expliquer un peu quelle est la genèse de ce documentaire, qu'est-ce qui a déclenché votre envie d'enquêter sur ces violences-là?
Bah alors, comme beaucoup de femmes, mais aussi d'hommes trans, hein, qui vont régulièrement chez le gynécologue, j'ai eu comme, enfin voilà, de nombreuses remarques, notamment sur le fait d'être questionnée systématiquement sur est-ce que vous allez faire un enfant prochainement. Mais toutes ces choses-là m'ont paru tout à fait normales pendant des années, et il a fallu le hashtag paye ton utérus en 2014 pour que je prenne conscience de l'ampleur du phénomène et de son caractère aussi systémique et anormal, parce que si nous étions des milliers de femmes à avoir vécu ce genre de violence, c'est bien que il y avait un problème qui n'était pas seulement de l'ordre de la relation inter-individuelle. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à conscientiser un petit peu quelle était la problématique, et à avoir envie de aussi me protéger de ces violences avec ce que j'avais sous la main, à savoir une caméra cachée, en fait, finalement. Et j'ai commencé à filmer mes entretiens gynécologiques en caméra cachée.
D'accord. On a un extrait du documentaire à vous faire écouter, justement.
Pour une patiente, d'imaginer que, alors qu'elle n'était pas prévenue, il y a eu un examen, il y a eu dans l'imaginaire, physiquement, une pénétration.
Vous voyez, pénétration, c'est un examen clinique. Le mot pénétration, elle me gêne terriblement. C'est comme quand vous faites ouvrir la bouche, ou même sous l'incision, vous faites ouvrir la bouche et puis vous mettez un abaisse-langue pour aller voir au fond. Vous ne pénétrez pas dans la bouche, vous accédez aux organes qu'il faut traiter.
Ouais.
Le mot pénétration a une connotation quelque part sexuelle, voire même péjorative. Hein. On emploie en médecine un autre terme qui est le mot invasif.
Donc là, on vient d'entendre Bernard Hédon, qui est le représentant des gynécologues, je crois, que vous avez interviewé dans votre documentaire, et qui différencie clairement la pénétration de l'acte médical du toucher vaginal, comme si c'était deux choses complètement différentes. Plus tard dans votre documentaire, on voit Israël Nizan, le président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, pour qui la pénétration relève uniquement du cadre pénal et juridique, et donc n'a rien à voir avec ce qui peut se passer pendant une consultation. Est-ce qu'en les rencontrant, en échangeant avec eux, vous avez eu le sentiment qu'il y a un sentiment justement d'impunité de la part du corps médical vis-à-vis du corps des femmes ?
Oui, alors ce que j'ai pu constater, c'est d'abord une négation du problème, parce que si j'ai interviewé Bernard Hédon, donc, qui est l'ancien président du Collège des gynécologues, je l'ai interviewé il y a de ça 2 ans, il disait qu'il n'y avait pas... finalement de violence massive. Hein. Lui, son créneau était de dire que les mises au point ont été faites, que ce phénomène des violences gynécologiques et obstétricales était réglé. Donc on a une négation sur plusieurs années de la part des représentants des gynécologues, de la part des présidents du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce que ces personnes-là sont à des places où elles peuvent se permettre d'agir, de faire cesser l'impunité, de prendre des sanctions vis-à-vis des violences, et finalement ça n'est pas fait. Ce qui est fait, c'est une remise en question de la parole des femmes, le fait de renvoyer à des cas toujours individuels, vous n'avez qu'à changer de médecin, pourquoi vous n'avez pas réagi, et finalement de mettre la responsabilité de l'agression sur la victime, ce qui est typiquement ce qui se passe d'ailleurs pour toutes les agressions sexuelles dans cette culture du viol.
Oui, même hors cadre médical. Votre documentaire actuellement, alors, il est disponible sur les réseaux sociaux et sur YouTube, vous l'avez mis en ligne, il fait 20 minutes, et vous avez une campagne de financement participatif qui est encore en cours sur le site du Pot Commun. Donc vous êtes toujours à la recherche de financement, j'imagine, pour allonger le documentaire. C'est quoi la prochaine étape pour vous ?
Alors effectivement, on a d'abord réussi à financer les 20 minutes là présentes grâce à cet appel à dons et une mobilisation des internautes, ce qui est un signe aussi que cette thématique non seulement continue d'émerger, mais intéresse énormément, et je pense qu'on est à une étape de recherche de solutions. Pour l'instant, ce film, c'est une étape, sa mise en ligne, je pense, débouchera sur d'autres choses par la suite, j'espère sur des projections débat, j'espère qu'on va participer à une grande réflexion collective sur comment transformer les pratiques et comment il est possible de faire autrement pendant le suivi gynécologique pour ne plus subir justement le fait de se dévêtir systématiquement, le fait d'avoir des examens gynécologiques sans consentement. Alors après, au niveau du film, bien sûr que j'aimerais continuer, notamment sur les questions de alternatives possibles, mais aussi je crois qu'il y a un vrai travail à faire sur raconter l'histoire patriarcale de la médecine, comment ça se fait qu'encore aujourd'hui il n'y ait jamais eu de femme à la tête du Collège national des gynécologues. Il me semble que ça a une histoire et que ça explique aussi les violences que subissent les femmes aujourd'hui, le pouvoir patriarcal médical.
Eh ben, on espère que vous atteindrez tous vos buts. On encourage nos auditeurs à aller du coup sur le site du pot commun de Paye pas ton gynéco et de donner pour soutenir cette initiative ô combien nécessaire. Merci Nina Ford d'avoir été avec nous.
Merci à vous de l'invitation.
Et c'est déjà le moment de retrouver une nouvelle concitoyenne qui va informer nos autres concitoyens sur ce qui passe sous sa caboche. Sous nos caboches, n'importe quoi.
Les Françaises parlent au français.
Il fait chaud, très chaud dans le studio de Radio Campus. Il est 19h44, il fait 30 degrés et ça ne va pas s'arranger. Et si je fais un petit point météo, c'est que je viens vous parler, chers Français, de votre corps, plus précisément de vos pieds, de vos petits petons, de vos adorables orteils. Libérez-les. Les mecs, ça va pas, il faut passer aux sandales. Je parle aussi aux Françaises, mais les Français sont quand même les premiers concernés. Sans déconner, il fait pas chaud dans vos baskets. Et je ne parle même pas ici de ceux qui décident délibérément de ne pas mettre de chaussettes. Eux, c'est un cas à part, ils sont trop loin. Vous n'en avez pas marre de suer, de fermenter, de mycoser? Allez, venez, on est bien en sandales. Envoyez valser le patriarcat qui enferme vos pieds dans un carcan de cuir, au mieux, de plastique au pire. Et à ceux qui me diront qu'ils n'ont pas encore trouvé sandales à leurs pieds, je réponds « mensonge ». La mode n'a jamais été aussi riche en sandales pour hommes. Vous avez la sandale Santiago, vue sur tous les podiums, commercialisée par Redneck Boot Sandales, pour garder les pieds au frais en conservant un look de cow-boy. Vous avez également la Birkenstock classique. Et alors, pour ceux qui vraiment sont à la pointe de la mode, et là, j'espère que Christophe, tu m'écoutes, il y a la claquette banane. C'est le mix de deux tendances, à savoir la claquette de sport, en plastique genre Adidas, et la banane, pratique pour ranger des petits accessoires à l'intérieur, hyper tendance, commercialisée par la marque à la virgule. Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, sachez que la sandale, c'est THE accessoire 2019, en plein dans la tendance outdoor, entendez à l'extérieur. Vous avez vu que vos amis cet hiver ont acheté des doudounes poids plumes, des kawaii, des backpacks, et voilà. Et bien la sandale, ça rejoint ce look un petit peu quechua, bref, libérez vos pieds. Et aux Français qui n'assument pas, je dis, vous n'êtes pas seuls. Vous vous rappelez de ces 12 employés d'une compagnie de bus nantaise l'année dernière qui ont protesté en jupe pour se plaindre du pantalon obligatoire parce qu'ils avaient très très chaud dans leur cabine de bus. Voilà, et ben ils ont eu gain de cause. Et ils sont même des influenceurs parce que la société RATP a annoncé hier que les employés hommes pourraient porter des Bermudas sous certaines conditions. Alors c'est entre le 30 juin et le 30 septembre s'il fait plus de 28 degrés. Ils pourront porter un petit Bermuda, qui est en fait un pantalon transformable en short grâce à une fermeture au-dessus du genou. Alors moins un pour la mode, mais parmi les 15 000 conducteurs et conductrices de bus RATP, 500 l'ont déjà commandé, alors plus un pour la lutte. Et enfin, n'oubliez pas, comme disait Virginie Despentes dans King Kong Theory, les hommes ont ceci de particulier de mépriser ce qu'ils désirent. Alors peut-être qu'elle parlait des femmes ou de l'amour entre mecs, mais c'est sûr que ça s'applique aux sandales.
Merci pour ce message, Lucie. C'était un peu du placement de produit, mais voilà. Bon, tout de suite, justement, la RATP a trouvé une solution pour les hommes qui ont trop chaud, les chauffeurs de bus qui ont trop chaud. Bah, nous aussi, il est temps de parler de solutions, je crois, vis-à-vis des violences gynécologiques et obstétricales. En France, on a vu émerger il y a quelques années le site Gynéco, avec un end anglais à la place du E, qui recense partout en France et même dans les pays francophones, en Afrique par exemple, les praticiens safe, c'est-à-dire les médecins qui ne vont pas juger, qui ne vont pas être auteurs de violences. Chaque fiche précise les tarifs des gynécologues, si ils ou elles sont bi-friendly, tolérants envers différentes formes de sexualité ou d'identité sexuelle. Et le rapport du HCE aussi, Margot Collet, il met en avant des, pour compléter tout ça et pour aussi avancer à un niveau étatique, des 26 recommandations pour mettre fin justement à toutes ces violences. Une des premières, c'est d'ailleurs, en lien avec le site Gynéco, de cartographier les praticiens et les maternités en fonction de leur pratique, en fonction du nombre d'épisiotomies qui sont pratiquées. Donc la priorité pour vous, c'est vraiment l'information des patientes.
Ouais, c'est un premier élément central, mieux connaître ce qui se passe, justement pour ne pas se baser que sur les témoignages et que la parole des femmes ne puisse pas être remise en doute. Donc cartographier les pratiques maternité par maternité. Aujourd'hui, c'est Le Monde qui l'a fait, un journal qui l'a fait avec un réseau de périnatalité. Nous, on considère que c'est des informations de santé publique, des informations auxquelles les femmes doivent avoir accès et des informations qui servent aux praticiens eux-mêmes. Donc la cartographie du monde, elle permet de savoir maternité par maternité quel est le taux d'épisiotomie, de césarienne, de péridurale et de savoir comment ça se situe par rapport à la moyenne nationale. L'idée, c'est pas du tout de faire un TripAdvisor de la maternité, mais c'est d'être plus transparent sur ce qui se fait.
Vous faites aussi d'autres recommandations, notamment sur la formation des soignants par rapport aux formations qu'ils reçoivent en médecine, aussi dans la spécialité de la gynécologie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des modules qui sont là pour informer les médecins? Alors pourquoi, en fait, quand on passe à la pratique, ça ne marche pas? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer cette formation?
Il y a des choses qui se font. Nous, on a identifié deux sujets prioritaires. D'un côté, la bientraitance, le consentement. On en a beaucoup parlé. Considérer le patient comme une personne à qui qu'on peut écouter, avec qui on peut discuter. La question du consentement. La loi de 2002 qui réaffirme le consentement du patient ou de la patiente de manière obligatoire, ça ne fait pas très longtemps. Donc, pour des praticiens qui exercent pour certains depuis des décennies, ce n'est pas du tout dans les pratiques. Et pour les jeunes, ça doit s'ancrer. Donc, d'un côté, bientraitance, consentement. Et de l'autre, violences sexistes et sexuelles, parce que déjà les soignants sont les premiers professionnels vers qui se tournent des femmes en situation de violence, parce que les violences sont un phénomène massif, et aussi parce que quand on est formé sur la question du sexisme, on est plus à même de recevoir comme il se doit une femme en consultation. Donc il y a des choses qui existent, normalement les formations sur les violences sexistes et sexuelles, c'est déjà obligatoire, mais c'est pas le cas. Souvent, entre une loi et les faits, il faut de l'action publique et un caractère obligatoire. C'est pour ça que nous, on a identifié, il y a une réforme de la formation des médecins qui est annoncée par la ministre Agnès Buzyn en 2019. Là, on a un levier pour que cette formation devienne obligatoire et qu'elle soit appliquée partout.
Et dans un troisième temps, si tout ça ne fonctionne pas, il reste évidemment les poursuites pénales, enfin en tout cas les demandes d'indemnité et les poursuites. Justement dans le podcast de Charlotte Bien-Aimée qu'on entendait au début, il y a une femme qui raconte qu'elle a été maltraitée par un gynécologue et que des années après, au moment où est sorti le podcast, ce gynécologue pratiquait encore alors qu'elle avait, avait eu des témoignages d'autres femmes qui avaient subi la même chose qu'elle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire justement à ce niveau-là, au niveau juridique?
Alors déjà, avant le niveau juridique, les femmes, elles ne connaissent pas du tout les recours. Déjà, elles ne savent pas que ces faits-là sont pas normaux, donc elles vont peu faire des recours. Elles connaissent pas les recours qui existent, donc on peut mentionner le défenseur des droits, les commissions des usagers qui existent dans chaque maternité. Une femme qui, suite à un accouchement, estime qu'elle a été maltraitée, peut se tourner vers l'établissement. Il y a aussi les ordres professionnels, ordre des médecins, ordre des sages-femmes, qui peuvent traiter des plaintes et prendre des mesures disciplinaires contre un médecin, donc c'est-à-dire d'un avertissement jusqu'à l'interdiction d'exercer, jusqu'à la radiation. Et puis il y a la justice. Nous, on liste tous les actes qu'on a identifiés et on montre que certains relèvent d'infractions pour certaines pénales. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi savoir pouvoir se tourner vers la justice, à condition de trouver un avocat sensible à ces questions et formé sur ces questions. Mais en tout cas, comme sur toutes les questions des violences faites aux femmes, on voit qu'il y a un vrai besoin de formation et puis de connaissance par les femmes de leurs droits en matière de santé et en matière de violence.
Il ne faut pas avoir peur d'aller attaquer la blouse blanche, quoi. Pas intouchable.
Formation et connaissance du droit, c'est ce dont il faudrait s'occuper très prochainement en tout cas, mais pour l'heure, c'est l'heure de notre troisième chronique française aux Français. Quatrième, pardon.
Et dernière.
Et dernière. Tristesse.
Les Françaises parlent au français.
Français, tu voudrais voir ma chatte? Tu voudrais la connaître? Lui faire des trucs peut-être? À ma chatte, mon organe, ton mystère. Français, y a pas de mystère. Connaître ma chatte, c'est aussi simple que de rentrer dans une librairie. Si, 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 contrairement à ce que dit Pascal Obispo, c'est marqué dans les livres, le plus important à vivre. Français, tu es rationnel, le domaine de science, c'est pour toi. Un livre donc qui va te parler. Non, le sexe féminin, l'organe, ma chatte, celle de ta mère, français, n'est pas un tabou magique. Nina Brochmann et Hélène Stockendal, elles sont médecins norvégiennes, c'est pas facile à prononcer, font toutes les deux le point sur tout ce que la médecine permet de savoir sur le sexe féminin. Et les joies d'en bas, c'est le titre du livre. Au sommaire, la vulve, le clitoris, l'autre trou, les règles, le troisième sexe, j'en passe d'autres et des meilleurs, la contraception, les maladies, et ces maladies-là, on les partage, hein, ça vous intéresse aussi les garçons. Flash info, au passage, l'embryon humain, jusqu'à 6 semaines, n'a pas de sexe, mais une tubercule génitale. Nos zizi sont tous égaux, page 62 du livre, très beau schéma. Autrement, dit, tu vas découvrir quantité d'informations médicales sur l'identité sexuelle, la reproduction, les douleurs et les maladies génitales, ces sujets que nous partageons et qu'on aime bien mélanger. Enfin, tu sentiras combien le cycle féminin n'est pas contraire à l'unité, à la personnalité, enfin bref, comme le disait Charlotte, on n'a pas besoin d'en avoir peur. Maintenant que tu connais un peu plus français, t'as le droit à une petite fiction, attention, extrait. Le moment cardinal de toute consultation gynécologique. Et je le vois venir. Il n'est pas différent des autres, ils ont beau chercher à faire illusion, un homme, ça n'est jamais qu'un homme. Son sourire va disparaître. Il va se lever sans un mot, faire le tour du bureau, lui dire froidement « déshabillez-vous », se diriger vers le box d'examen, se savonner les mains et se curer les ongles. « Allons, détendez-vous », pendant qu'elle, les fesses collées au papier de la table, se tortira pour oublier que c'est un mauvais moment à passer, tandis que sans un mot, sans un regard, sans un soupir, une main fermement posée sur le bas-ventre, comme pour l'empêcher de gigoter, « Allons, voyons !» Faut pas vous contracter comme ça, ma petite dame. Oui, voilà. Les violences gynécologiques ont été mises en roman par Martin Winkler. Et le roman inverse les rôles. Le gynéco, le docteur Karma, ouvre son cabinet avec sagesse et à la parole des femmes, tandis que son interne, la jeune Jean, agresse tout le monde pour contrôler son sexe, contrôler ses peurs. Cette enquête en milieu hospitalier, plaidoirie contre les violences gynéco, roman initiatique au dialogue des sexes, je vous invite vraiment à le découvrir, français. Parce qu'après avoir lu ça, mon cher français, je te jure, tu pourras dire que tu connais ma chatte.
Margot Collet, vous avez lu ce livre de Martin Winkler ? Winkler, je sais pas comment on dit.
Oui, je l'ai lu pendant la rédaction du rapport.
Et il vous a aidé, vous a éclairé d'une certaine manière ?
Oui, oui, bah on y voit une question qui est assez peu traitée, c'est le suivi gynécologique. Pendant tout le débat sur violence obstétricale, on a beaucoup parlé accouchement, grossesse et toutes les questions de la consultation banale, l'examen banal de gynécologie, ça reste encore un grand tabou.
Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission, que c'est passé vite. Merci Margot Collet du Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes d'avoir été avec nous. Merci à Nina Faure d'avoir été avec nous par téléphone. On rappelle donc que vous pouvez contribuer au documentaire Paye pas ton gynéco sur le site Le Pot Commun. Et puis, allez consulter le rapport, lisez Martin Winkler, même si vous êtes un homme. En bref, informez-vous. Pour l'heure, il est temps de s'écouter une petite fiction estivale made in Maxime Faciotti qu'on accueille immédiatement. Ouvrez les écotilles.
Une autre bière.
L'apéro, c'est le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Ok, à quelle heure ?
À 19h.
Eh ben c'est parti, l'apéro.
C'est maintenant.
Bonjour ma propre petite sœur.
Bonjour madame, bienvenue pour cette croisière sur le Wonderful Pacific Blue Exquisite Queen.
Merci mademoiselle.
Bonjour messieurs, bienvenue sur le Wonderful Pacific Blue Exquisite Queen.
Bonjour madame, nous souhaiterions parler au commandant.
Ah ben le voici justement qui arrive. Commandant, commandant.
Oui, que se passe-t-il Déborah ?
Ces messieurs voudraient...
Commandant Swanson, quel plaisir.
Madame Gladenway, quelle joie de vous retrouver. Monsieur Gladenway n'est pas avec vous cette année.
Hélas non, il a rejoint les cieux.
Oh, je suis confus, je l'ignorais. Toutes mes condoléances madame Gladenway.
Ah non, vous n'y êtes pas du tout, il a rejoint le camping, les cieux, il y va tous les ans avec ses anciens collègues. Moi, j'ai préféré venir en croisière, c'est mieux pour mon cancer.
Mais je ne savais pas que vous étiez malade.
Pas du tout cancer, et le nom de mon petit chien, il déteste les campings, il adore les croisières. Et puis ça le déprimait de rester avec ma sœur qui vit chez nous avec son Alzheimer.
Un drôle de nom pour un chien.
Ma sœur n'a pas de chien, elle est vraiment malade pour le coup.
Ah, formidable, vous me raconterez tout ça au dîner.
Commandant Swanson, ces hommes voudraient vous parler.
Bonjour, je suis le commandant Swanson. Bienvenue sur le Wonderful Pacific Blue Exquisite Queen.
Oui, bonjour commandant. Je suis l'inspecteur Tate et voici Bill, mon adjoint.
Salut.
Ah, vous êtes là en amoureux ? Félicitations, vous allez très bien ensemble.
Non, nous nageons en plein malentendu, commandant.
En plein malentendu.
Bill et moi ne sommes pas ensemble.
Pas vraiment.
Ah, vous êtes en couple avec des femmes mais souhaitez rester discret ? Rassurez-moi, nous avons l'habitude.
Mais il s'agit pas de ça. Nous sommes là incognito.
Parce que vous êtes non officiellement en couple, oui j'ai compris.
Ah mais ça suffit ! Nous sommes en mission car un homme dangereux se trouve sur ce bateau.
Très dangereux.
Un homme dangereux ? Mais qui ? Pourquoi ?
Je ne peux pas en dire davantage, mais soyez rassurés, nous sommes là.
Bien là.
Qui est cet homme dangereux ? Que va-t-il se passer ? Vous le saurez dans le prochain épisode de Wonderful Pacific Blue Exquisite Queen.
Merci Maxime. Cette fiction, on la retrouvera tous les jours. Tous les jours ? Est-ce que tu seras là tous les jours ?
Oui, quasiment.
Oui, tous les jours de juillet, donc Maxime n'a pas de vacances, il est à la radio tout le temps. Tous les jours de juillet à 19h54. Oui, mais on a le temps, Pitoum, alors tu nous laisses prendre notre temps, c'est gentil. À 19h54, toute la suite et la fin de la fiction estivale de Maxime Faciotti et de toute la radio. On remercie tous les invités d'aujourd'hui. Et puisque Pitoum s'est installé à côté de nous et qu'il veut absolument parler, et qu'il a besoin de 2 minutes en plus de sa demi-heure, vas-y Pitoum, qu'est-ce que tu vas nous parler ? De quoi tu vas nous parler dans la demi-heure ?
Qu'est-ce que tu vas nous parler dans le studio ?
À quoi sert le français de toute façon ? Dans la demi-heure ce soir, nous parlons de plein de choses et à la revue de presse comme d'habitude avec, on va parler de Macron évidemment et le pognon de dingue, on va parler aussi d'Israël et de la Palestine et puis on a notre sujet chiant qui sera sur les autolibes et la fin de ce service en tout cas, donc voilà, restez pour une demi-heure de LOL et d'infos.
Et bah moi qui pensais qu'on avait un sommaire déprimant avec les violences gynécologiques et obstétricales, il a réussi à faire pire.
Puis tu voulais du temps, il te reste 1 minute 30, puis tu
m'as Non, je voulais pas du temps, mais les passerelles on les fait avant les génériques normalement.
C'est pas un générique, c'est une fiction.
Il y a des fictions estivales maintenant.
Oui, non, mais là, le générique, là, c'est le générique en bête, là, on est d'accord.
Mais c'est pas ce que je voulais dire. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'apéro, ça continue demain et tous les jours, tant qu'il y a des bénévoles motivés en juillet pour ça.
Sauf le vendredi.
Donc, de 19h à 20h, du lundi au jeudi, sur le 93.9.